Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui une artiste sculptrice. Julie Espio sculpte les émotions, les vides et les ombres. Inspirée par l'océan et la nature, elle cherche à libérer les émotions des corps féminins. Après un accident qui la garde plusieurs années alitée, l'art l'aide à tenir. Un peu comme Frida Kahlo, elle recommence à peindre sur son lit et change de vie. La terre devient son éponge à émotions et la linogravure, une continuité naturelle. Où elle explique que finalement, il ne s'agit que d'évider, rendre le vide signifiant. Après 10 ans sous morphine, Cray la met en état de flow et lui permet de décrocher. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours, ses inspirations, mais surtout sa capacité de résilience et son impact sur ses créations. J'ai aimé voir avec elle le lien entre les émotions qu'elle cherche à libérer, les mots, et les émaux qui habillent ses œuvres. Elle nous parle de ses projets actuels et proches. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Julie Espio. Bonne écoute. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast État de Flow, un nouvel épisode avec une artiste. J'adore ça, cette promesse de vibration intense parce que je trouve que l'art produit des vibrations. Est-ce que tu as cette sensation aussi?
Oui, j'ai cette sensation parce que c'est un peu comme si ça rayonnait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un qui regarde une œuvre, il est enveloppé d'émotions. Il y a une émotion qui monte et qui fait une connexion entre l'œuvre et lui-même.
C'est certainement ce que moi je parle, je dis un dialogue, d'émotion, un dialogue de vibration. Est-ce que ça te parle si je te dis qu'il y a un dialogue qui se crée entre l'œuvre et l'observateur?
Oui, puisqu'en fait, il y a d'abord une première connexion, puis l'émotion monte, puis après... Comme je dis, il y a toujours une deuxième partie, c'est l'interprétation, se poser des questions, et après se dire, ben, quel est cet artiste? Est-ce que je le connais? Que je ne le connais pas? Voilà. C'est plus qu'un dialogue, je dirais, c'est aussi un cheminement, en fait.
Tu crées tes œuvres dans ce sens, avant qu'on parle exactement de ce que tu fais?
Alors, je ne crée pas mes œuvres en pensant comment on va le découvrir les spectateurs, sauf peut-être la mise en scène. Puisque là, en ce moment, j'avais commencé des tableaux céramiques qui, en fait, vont être présentés complètement différemment parce que, comme je travaille le vide, en fait, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée d'accrocher au mur et que la mise en scène différente de l'œuvre pouvait être plus intéressante en ayant un support, en le mettant droit et en jouant avec la transparence qu'il peut y avoir derrière. Enfin, avec ce qu'on voit derrière, le vide.
Oui, parce que je ne l'ai pas encore dit. Donc, tu travailles la céramique, tu es sculptrice, mais tu as d'autres médiums, notamment un peu de peinture, de la lino, c'est ça? C'est
De la
lino-gravure?
linogravure, oui.
Voilà. Et c'est intéressant parce que finalement, ce que tu parles ici, c'est un travail qui aurait dû être plutôt une peinture ou un tableau qui devient une sculpture.
Oui, alors souvent je peux partir dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai fait un dessin, une aquarelle qui devient une sculpture, mais il est arrivé que je fasse la sculpture et que je fasse la linogravure après. Bon, ceci dit, il y a toujours un croquis à la base quand même. J'ai toujours, je fais plein de croquis et après, je crée soit la linogravure, soit la sculpture.
Oui, mais comme tu l'expliques, c'est la finitude qui n'est pas finalement la même que celle de départ ici.
Voilà.
Hein? Intéressant.
Oui, des fois, je crée quelque chose, je me dis, je vais le mettre en scène comme ça au départ, et puis je me rends compte que c'est beaucoup plus signifiant en le mettant différemment.
Je pense que c'est un atout. Alors, tu es la première artiste sculptrice que j'interviewe, que je rencontre réellement, et je trouve que c'est un art qui est mystérieux pour moi, parce que j'ai plus l'habitude presque du 2D, et tu travailles le 3D, même s'il y a de la matière aussi sur les peintures. Et je trouve, il m'apparaît que d'avoir les deux capacités, les deux talents, comme deux mains, quoi, voilà, tu peux jouer l'un avec l'autre et certainement ça étoffe aussi ce que tu proposes.
Oui, mais alors la linogravure, tu vois, si on en parle, en fait, c'est pas une continuité, mais en fait, c'est le même geste que j'ai en sculpture, puisqu'il s'agit d'évider dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on crée des vides. En fait, moi, je travaille le vide pour le rendre signifiant. Donc, en fait, le travail d'évider, il existe autant en sculpture qu'en linogravure, parce que en fait, c'est le même geste pour moi. Sauf que techniquement, ce n'est pas exactement le même geste, mais j'ai des gouges au lieu d'avoir un couteau. Mais c'est créer, faire naître la forme par le vide, en fait, sur les deux, pour moi, sur les deux médiums.
Support. Ah, super. C'est une très belle vision que je n'avais pas vue anticiper. Créer les vides, on va y revenir parce que on va aussi
Ouais.
parler exactement de ce que tu fais. Je te propose peut-être de t'introduire un petit peu plus. Donc, sculptrice, oui. Tout un parcours auparavant, antécédent, mais à un moment donné dans ta vie, tu as un handicap qui a. Je ne connais pas toute l'histoire, donc si tu as envie de poser quelques mots pour expliquer, tu peux, mais c'est surtout que tu deviens professionnelle dans l'art après cet accident et que ça va vraiment avoir un impact sur la trajectoire artistique que tu prends.
Alors en fait, je travaillais dans la gestion finance et j'ai eu un accident dans un entrepôt, parce que j'avais aussi d'autres casquettes, et je me suis retrouvée sur un lit sans pouvoir bouger, avec une paralysie d'une jambe, et ça a commencé comme ça, puis j'ai été opérée, ça s'est mal passé. Bon, je passe les détails, et donc je me suis retrouvée en fauteuil pendant 3 ans. À peu près quelques années aussi sur un lit avant, et puis après j'ai pris un fauteuil, et puis finalement on a fini par trouver ce qui se passait, et on a réussi à m'opérer, et j'ai petit à petit retrouvé la marche, et en fait le moment où j'ai retrouvé la marche, et c'est aussi le moment où je me suis installée au bord de l'océan, donc les deux m'ont aidé à pouvoir passer au-delà. Mais en fait, dès que j'étais sur mon lit, j'ai un peu fait comme Frida Kahlo, c'est-à-dire que j'ai peint dans mon lit. C'est-à-dire que je suis restée tellement d'années allongée que je peignais dans mon lit. Voilà. Et dès que j'étais en fauteuil, j'ai monté des expositions, un salon dans mon village. Voilà, en fait, c'est l'art qui m'a aidée. M'a aidé à tenir par rapport aux douleurs immenses que j'avais, par rapport au fait de rester tout le temps allongée. Et donc, mais j'avais fait des études d'art avant.
Oui.
En fait, j'avais fait des études d'art et puis j'avais fait. Comme j'avais eu des enfants et que j'étais soutien de famille, ben j'ai en fait, j'ai repris mes études et j'ai fait une école de commerce. Comme quoi, voilà. Et donc, en fait, l'accident, pour moi, c'est une chance, c'est un retour à l'art. Parce que c'était ce que j'avais envie de faire dès le départ. Et pour moi, c'est bon, je le provoquerai pas, mais c'est vraiment une chance.
Quel regard tu poses aujourd'hui sur cette période-là?
Bah, en fait, j'ai un peu. Alors, j'étais 10 ans sous morphine, donc j'ai un peu l'impression de ne pas trop me rappeler. Bon, c'est le passé, ça m'a construite au niveau de l'art, ça m'a permis de revenir à l'art. Voilà, c'est. En fait, je vois pas ça comme négativement, je vois ça plutôt positivement parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'être plus apaisée, de vivre une autre vie et vraiment orientée vers l'art.
Tu as dû passer probablement par une période de deuil aussi de la vie d'avant, ou pas? Pas consciemment,
Ben en
peut-être.
fait, non, la vie d'avant, j'étais manager dans une entreprise. Je courais de 8 h du matin à 8 h du soir. J'étais tout le temps en stress et ce n'est pas du tout la même vie que j'ai aujourd'hui. Alors certes, je dois vivre au ralenti, il y a plein de choses que je ne peux toujours pas faire, mais je me suis adaptée et à partir du moment où on a accepté de s'adapter à ses possibilités, y a moins de problèmes.
Une belle sagesse quand même.
Ça vient avec l'âge.
Ce moment-là, c'est la colonne vertébrale, je crois, qui est touchée.
Ouais.
Et tes œuvres, elles ressemblent finalement à des colonnes vertébrales.
Alors, il y en a certaines et ce n'est pas forcément celles qui sont sur lesquelles je communique. J'ai Laurent Jagnard de la Galerie Art Trafic qui est venu à mon atelier parce que je travaille avec eux. Et il me dit, mais tu me caches des œuvres. Je dis, oui, mais ça, c'est des autoportraits. Et il me dit, oui, mais alors, il me dit, oui, celle-là, là, franchement, mais. Il me dit, en fait, le message dans tes autoportraits, il est encore plus fort que ce que tu donnes à voir. Et donc, on a décidé. Alors, techniquement, elles ne sont pas au niveau parce qu'elles ont été faites il y a 5 ans. Mais en fait, je vais du coup les refaire peut-être à la sauce du jour. Mais je lui ai promis qu'il pourrait les exposer.
Ça doit être un chemin pour toi aussi déjà, ça, de t'exposer toi dans l'œuvre.
Parce qu'au début, bon, certes, je parle de ce qui m'est arrivé, mais je ne parle pas. En fait, je dirais, il y a 2, 3 mois, quand j'expliquais, mais je n'expliquais pas au travers de mes œuvres. Or là, avec le Cercle de l'Art, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Cercle de l'Art avec 102 artistes. Et en fait, on a beaucoup travaillé en introspection sur pourquoi on crée, sur nos inspirations. Enfin, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et je me suis autorisée à écrire des textes et à écrire des textes où je relis mes œuvres et moi. Je relis Parce qu'avant, je disais toujours les femmes au pluriel. Je disais, oui, il y a des choses qui touchent mon entourage, des fois que j'aborde et qui ne sont pas liées à moi. Mais il y a quand même beaucoup de moi. C'est-à-dire que dans les nouvelles œuvres que je prépare là pour le Cercle de l'Art pour le 1er avril, en fait, on est passé un peu de l'océan au végétal. Et le végétal, comme si la tige était une colonne vertébrale. C'est toujours des femmes, mais c'est des femmes inspirées du végétal. Et donc, en fait, et les nervures sont les nerfs qui sont dans mon corps aussi. Donc, il y a quand même une projection. Et je pense que jusque-là, je n'étais pas capable de parler de cette projection. Quand je parlais de la résilience par l'océan, je parlais de dire que comme quand moi, que je m'assois en face de l'océan, j'arrive à faire le vide, que les vagues viennent chercher mes émotions et les amènent au loin. Mais je ne parlais, je mettais ça sur un ton général, alors que là, j'ai même préparé des textes, un carnet qui sera dévoilé pendant cette exposition, où c'est un petit carnet quand même qui est entre art et introspection, où j'ai fait des croquis, où j'ai fait des textes. Voilà.
Les émotions, tu viens d'en parler, et ça a une grande place dans ton travail artistique. Tu parles et tu dis un mot, trois mots qui me plaisent énormément, c'est sculpter les émotions. à la fois, encore une fois, il y a ce mystère-là, on a envie de comprendre et on a envie de venir voir ce que tu fais pour comprendre ça. Et puis, les émotions, ça veut beaucoup dire des choses, c'est l'énergie en mouvement, c'est après ton histoire de stagnation pendant longtemps, puis tu face à l'océan, le mouvement revient et puis ça se retrouve dans tes œuvres. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore autre chose? Voilà, explique-nous un petit peu ce sculpter les émotions.
Alors, en fait, c'est sculpter les émotions et sculpter le vide. Parce que, en fait, dans mes œuvres, il y a peu, enfin, je ne connais pas vraiment de sculpteurs qui travaillent à l'intérieur des sculptures. C'est-à-dire que moi, j'imagine dans ma tête un cocon émotionnel à l'intérieur du corps où il y a des échanges entre l'intérieur et l'extérieur qui se fait par les vides que je crée. Et c'est la forme qui vient en plus. C'est-à-dire que je crée j'imagine mes chemins et la forme vient. Et en fait, dans ce cocon émotionnel, j'imagine des histoires, j'imagine des émotions, j'imagine plein de choses. Donc, comme s'il y avait des petits, c'est pas des atomes, mais c'est des petites interactions. Et qui voilà. Et plus je dis, plus les vides sont grands, plus ça veut dire que il y a une libération de la personne. En fait, au départ, mes sculptures avaient des petites ouvertures, et plus j'ai avancé aussi dans ma propre résilience, plus ça s'est ouvert et plus les émotions se libèrent. Et en fait, je travaille sur les corps voluptueux parce que j'estime que, enfin, en tant que maman, mais aussi en tant qu'artiste, on a une responsabilité vis-à-vis des corps qu'on représente. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mal à l'aise dans leur corps parce que leur corps ne ressemble pas à ce qui est montré dans les médias, dans la presse. Et en fait, le fait de les... Moi, je représente entre guillemets, la beauté imparfaite, c'est-à-dire que la particularité, la singularité, pour moi, est plus source de beauté que la norme. Donc, je représente des corps avec des bourrelets, avec des... Voilà, qui ne soient pas forcément symétriques. Voilà. Et en fait, souvent, quand on n'a pas confiance en soi à cause de son corps, on garde les émotions à l'intérieur et en fait, on donne une image à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas la même vision. D'où l'intérêt d'avoir un cocon, et ce cocon émotionnel n'est pas le même que l'émotion, entre guillemets, affichée. Et ça, c'est le problème du regard des autres sur son corps, mais c'est aussi le problème du regard, de son propre regard sur son corps. Voilà. Alors ça, j'en parle parce que j'ai des proches atteints au niveau de boulimie anorexie, et ça m'a fait beaucoup réfléchir au vide qu'on veut remplir et au vide qu'on veut refaire derrière. C'est voilà, c'est toute cette partie-là. Après, j'ai continué, j'ai même travaillé une fois sur un couple où en fait j'ai travaillé le cocon émotionnel entre un homme et une femme. Voilà, j'ai fait ça pour un concours. Voilà, des fois j'ai. C'est vraiment, en fait, j'imagine dans ma tête la matière qui est dans le vide.
Tu dois être assez connecté aussi à tes ressentis pour réussir à faire ça.
Alors, quand je crée, comme tu dis, en plus, c'est le nom de ton podcast, c'est état de flow, c'est ça, c'est que quand je suis complètement connectée à mon art, j'oublie complètement ce qui peut se passer autour, j'oublie l'heure, j'oublie de manger, j'oublie ma douleur, ce qui est très important dans mon processus créatif, parce que du coup, c'est comme ça que j'ai décroché la morphine. Mais par contre, quand je m'arrête, il faut à nouveau que je reprenne des médicaments. Mais c'est vrai que c'est un état qui me permet à la fois d'oublier tout le reste, mais de me connecter à mes émotions et d'être vraiment dans ma bulle créative et dans aussi dans mon cocon à moi, et de partir. Ceci dit, je fais aussi des séances de connexion pour faire mes croquis, pour faire mes réflexions sur un sujet. Je peux faire, là, je travaille sur une commande et j'ai fait jusqu'à 40 croquis. Je vais pas 40, pour présenter les 40, mais voilà, je me projette dans l'histoire que je veux raconter, dans les émotions que je veux montrer. Et donc, en suivant, voilà, je suis dans ma bulle pour créer tout ça.
Je pense qu'en tant qu'artiste, finalement, on ressent d'abord soi-même les émotions qu'on traverse et puis après qu'on explore sur le papier, sur la toile, sur la sculpture, qu'on
Oui, mais
libère là.
des fois, c'est quand je projette les émotions de quelqu'un d'autre, il faut que j'essaie de me mettre dans.
Oui, c'est ça.
C'est parce que des fois, je raconte des choses qui ne me sont pas arrivées. Et donc, il faut que je me mette dans la peau de la personne, un peu comme un comédien se mettrait dans la peau de la personne, et que je me dise, voilà, c'est ce sujet-là, comment la personne se sentirait, comment, voilà. Puis je lis beaucoup de livres là-dessus, pour essayer de comprendre la perception du corps, tous les problèmes liés au corps, quoi.
Oui, tu parles de personnages qui prendraient ce rôle-là, mais aussi je vois très bien un écrivain d'une fiction, d'un roman, et doit aussi
Voilà.
avoir cette capacité-là de retranscrire des émotions qu'il n'a jamais vécues.
Oui, c'est ça.
Tu parles de volupté, j'ai envie de parler aussi de sensualité. Est-ce que je me trompe?
Alors, c'est pas c'est pas mon intention première, mais souvent on me le dit, c'est que les œuvres dégagent de la sensualité. Alors, c'est lié aussi le fait de travailler les émaux et de travailler les courbes. Forcément, c'est des corps très féminins. Même si ce sont des corps voluptueux, ce sont des corps très féminins et très sensuels. L'idée est toujours de dire que la beauté imparfaite peut être belle à regarder, peut être sensuelle, peut être. Voilà. Et j'ai beaucoup de femmes, d'ailleurs, il y en a qui se sont fait offrir des sculptures et qui me disent, mais moi, j'aurais envie d'avoir votre sculpture parce que je me reconnais dedans et je suis contente qu'on mette en beauté des femmes, entre guillemets, imparfaites.
Je me demande si la sensualité, finalement, ce n'est pas juste assumer, juste entre guillemets, assumer son corps, effectivement. Est-ce que tu aides à faire en présentant ces œuvres-là, assumer ses formes et les rendre belles et donc
Eh
on
oui,
devient
alors en fait,
sensuel?
ouais, en fait, souvent, je passe par le biais de la danse. Alors, j'ai toute une série qui s'appelle Les Volutes Océanes, et c'est, entre guillemets, la reprise de confiance de la femme, parce qu'elle danse, donc elle prend confiance, et du coup, elle s'affiche quoi, en dansant, et elle montre qu'elle s'accepte telle qu'elle est, quoi. Et en fait, je passe aussi par la danse, parce que c'est la danse que je ne peux pas faire. Et du coup, ça m'inspire beaucoup, mais des fois, je dessine des positions que je ne peux pas faire moi-même, mais j'arrive à m'y projeter dedans.
Tu parles de choses que tu ne peux pas faire toi-même. Tu as dû adapter ton matériel à ton handicap, je pense. Ça, c'est aussi une réalité. Bah
Oui,
des artistes, c'est pas que voilà, c'est pas que dans la vie du quotidien.
Ouais, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un ergonome, par Cap Emploi qui s'occupe aussi des indépendants handicapés, parce que moi je ne le savais pas, je pensais qu'ils s'occupaient que des salariés, mais ils s'occupent aussi des indépendants. Ils sont venus, ils m'ont envoyé un ergonome, on a travaillé pendant une semaine sur tous mes gestes, on a tout décomposé et après ils ont fait des préconisations en matière de matériel qu'ils ont financé à 60%. Moi, j'ai financé quand même 40%. Et donc, j'ai du matériel avec des tables qui montent, qui descendent, avec une machine à étaler la terre, enfin, avec des choses pour les transferts jusqu'au four, une machine à retraiter la terre plutôt que le faire à la main. Voilà, on a adapté mon activité au maximum de ce qu'on pouvait, quoi.
Un ergonome qui alors du coup te propose du matériel spécifique pour ton métier, adapté.
Alors, c'est un matériel qui existe pour mon métier, mais que moi, je faisais tout à la main, donc c'était
Mais
plus
toi, tu
facile.
n'en avais pas conscience de l'existence de ce métier ou tu le savais et juste tu ne savais pas vers où te
Non, ça,
tourner?
justement, on a contacté des fabricants pour faire des adaptations sur, mettons, sur une boudineuse, c'est quelque chose qui retraite la terre. Et il y a quelqu'un qui crée des boudineuses en France et qui a accepté de faire un rajout pour me simplifier la tâche dessus. C'est-à-dire qu'il a fait une adaptation. Mais voilà.
C'est beau. Moi, je trouve ça beau, finalement, la finalité de se dire, ah ben, on peut adapter, on peut trouver des personnes qui adaptent le matériel pour nous, même si ça doit être une épreuve aussi à aller demander, à aller
Ah, mais c'est
traverser cette
l'ergonome qui s'en
différence.
occupait. Moi, je savais que j'avais déjà contacté un fabricant français pour en acheter une. Mais, et quand il a su, lui, que c'était pour quelqu'un via Cap Emploi, il a dit, mais moi, je peux faire des adaptations. Voilà.
Tu travailles la terre. La création avec la terre, c'est aussi un ancrage, certainement. Il y a quelque chose qui te ramène à la terre, du coup, sans être à l'extérieur, mais on
Bah,
dit la terre, c'est l'ancrage.
oui, c'est que la, moi, pour moi, c'est une connexion avec la nature parce que, en fait, mon atelier, il est entre l'océan et la forêt. Donc, depuis que je suis ici, déjà, ça m'a apaisée. Mais quand j'ai commencé la terre, en fait, je vais faire une image, mais en fait, j'ai l'impression que la terre, c'est une éponge à émotions, c'est-à-dire que ça absorbe toutes les émotions négatives. Et je donne des cours là tous les 15 jours et les gens qui sont venus, certains étaient venus pour se changer les idées, d'autres pour créer. Chacun vient avec ses. Et en fait, elles sortent du cours et me disent, j'ai oublié tous mes soucis. En fait, on pétrit la terre et en fait, c'est un exercice qui est méditatif, de travailler la terre. Et je trouve beaucoup plus que la peinture, mais après, ça, c'est une question de. Du coup, j'arrive moins à revenir à la peinture, parce que à partir du moment où j'ai découvert la terre, puis le fait de creuser aussi, c'est méditatif, c'est un geste qui, voilà, on sort de la matière un peu comme si on sortait tous ses problèmes.
Ouais, c'est beau comme image. Mais oui, effectivement, probablement que la peinture, il y a encore ce pinceau qui vient entre la matière et notre doigt, alors que bah, la terre, on est directement dessus.
Moi, pas vraiment, parce
Non?
que moi, je travaille avec un couteau et je travaille avec des instruments, mais il y a quand même ce rapport à la matière qui est important, quoi.
Travailler les ombres. Tu parlais tout à l'heure de créer des vides, de sculpter les vides, sculpter les émotions, mais il me semble que tu sculptes également les ombres.
Ah oui, j'ai encore fait ça la nuit dernière, enfin, pas la nuit dernière, l'année d'avant. J'avoue que c'est. Ce travail de l'ombre projetée m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une sculpture, j'éteins la lumière, je mets un spot et je regarde comment ça se comporte et comment on comprend la forme par rapport à l'ombre projetée. Et en fait, ça fait plus d'un an et demi que je fais des photos de ça. Je ne sais pas, peut-être un jour j'en ferai quelque chose, mais j'ai des idées comme ça, des trucs qui me. J'ai l'impression que quand une œuvre est réussie, elle a une belle ombre projetée. Voilà, parce que c'est comme quand je travaille une sculpture, je travaille autant de entre guillemets, c'est autant de sculptures qu'il y a de faces. C'est-à-dire que je travaille sur une tournette et je veux qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un message dans chaque angle de perception. Et c'est comme ça que des fois, je fais des photos par-dessus la sculpture. Et j'avais montré une comme ça sur une colline. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment on la voit là, ta photo? Et je lui ai dit, d'en haut, je sais, vous ne la regarderez jamais, mais moi, je sais que ça avait une signification pour moi d'avoir conçu les deux corps mais qui ne se touchent pas et qu'on voit ça d'en haut. Alors que. Personne ne le verra si quelqu'un l'a chez lui, mais pour moi, c'était important d'avoir cette signification-là.
Ça rajoute quand même, j'ai envie de dire, du travail à l'œuvre, d'aller vérifier effectivement, est-ce que ça fonctionne sur tous les plans?
Alors, je dirais que c'est assez instinctif, en fait, parce que maintenant, en fait, quand je crée, au fur et à mesure. Que de mon geste, je me dis, suivant ce que je veux exprimer, je fais le tour. Donc, quand je crée, je tourne en même temps. C'est-à-dire, quand j'incise ma terre, je tourne, je ne reste pas sur un plan. Donc, forcément, voilà. Mais souvent, il y a du mouvement dans tous mes corps, il y a du mouvement. Donc, forcément, il faut que le mouvement, il fonctionne et voilà.
On revient à cette idée d'émotion, emotion, mouvement, l'énergie en mouvement. Du coup, si on parle vraiment de ton processus créatif, tu parles, est-ce que tu, parce que bon, moi, j'ai déjà vu tes œuvres en photo, pas encore eu la joie de les voir en vrai, parce qu'on n'est pas dans la même ville, mais quand même, elles donnent déjà un bel aspect. Bon, voilà, on peut s'imaginer comment tu crées, etc. Mais dis-nous un peu, est-ce que tu pars d'une boule de terre, effectivement, que tu viens creuser et vider, ou est-ce que tu ramènes des bouts de terre l'un vers l'autre?
Alors, ça dépend complètement de l'heure, parce qu'il y en a où je pars carrément d'un bloc de terre, un peu comme un sculpteur de pierre, et je vais aller évider, voilà. Et il y en a où, en fait, je travaille avec partir d'une plaque de terre que je forme et avec laquelle je vais faire la forme. Et après, je vais aller évider, faire des rajouts, etc. En fait, j'ai les deux techniques, ça dépend exactement de ce que je crée. Et honnêtement, les œuvres les plus abouties sont celles où je pars de la masse complète. Parce que quand je fais une forme, je suis contrainte par un problème de technique. Alors que quand je suis encore au stade du pain de terre, etc., j'ai plus tendance à aller chercher des mouvements que je ne, qui sont tellement calculés avec la plaque de terre, qui sont moins expressifs que quand je les fais sortir du pain de terre, carrément.
J'ai l'impression que même le processus dans ce que toi tu vis en tant qu'artiste, c'est très différent aussi, parce que d'un côté, tu viens donner une forme à du vide, et de l'autre, tu en donnes à du plein en vidant. Tu comprends ce que je...
Ouais. Mais en fait, ce que je dessine en premier, c'est les vides, en fait. C'est les vides qui vont faire le plein, parce que dans mon processus, que je dessine, c'est pas la forme, à la limite, je donne une forme. Mais c'est les vides qui vont déterminer ce que va être le plein ensuite, que ça soit sur les deux méthodes.
Tes sculptures, elles sont quand même à la fois, on voit bien que c'est de la terre, donc c'est lourd, c'est solide, mais à la fois il y a cette finesse, puisque chaque vertèbre, chaque, voilà, j'ai envie de dire, chaque morceau est fragile en soi, et c'est dans l'ensemble que ça devient quelque chose de plus solide, effectivement. C'est aussi un challenge technique, ou pas, de
Alors,
garder la solidité de
non, elles ne
l'œuvre.
sont pas du tout lourdes, elles sont très, très, très légères par rapport à
Ah.
la sculpture, parce que par rapport à des sculpteurs qui font des sculptures en céramique pleine, moi, mes parois sont très, très fines. Oui, c'est une technique que j'ai trouvée moi-même, où je me suis. En fait, je me suis formée avec pas mal d'artistes et d'artisans d'art. Puis après, j'ai développé ma propre technique. Quand je suis allée voir des gens qui étaient tant agréés à Atelier d'Art de France, et pour améliorer mon processus, ils m'ont dit je ne sais pas faire, donc continue comme ça. Et en fait, tu as développé ta propre technique et il n'y a que toi qui peux l'améliorer. Donc pourquoi je cherchais à améliorer? Je cherchais à améliorer dans un sens où certaines œuvres peuvent me prendre jusqu'à 80 heures quand elles sont un peu grandes et que je veux arriver à cette finesse-là. Donc, je cherchais un peu à améliorer, mais en fait, non, quoi. Donc, du coup, non, c'est ma propre technique. Et en fait, oui, c'est du travail de précision, parce que, en fait, comme tu dis, c'est des petits bouts et il faut que ces petits bouts, que le tout tienne et ne, au fur et à mesure que je vide et que ça ne s'écroule pas. C'est arrivé.
Oui.
Mais c'est rare parce que plus j'avance, plus je sais. Mais comme je mets de plus en plus de vide, il y a de moins en moins de terre pour tenir et des fois l'épreuve au four est difficile.
Comment on vit ça en tant qu'artiste, de voir son œuvre qui s'écroule ou qui rend pas
Eh
du
ben, je me
tout
dis, non, alors là, je suis très sur ça. Je me dis, de toute façon, c'est qu'elle ne devait pas voir le jour qu'elle avait. Voilà, c'est comme quand je suis en train de créer une sculpture. J'ai le souvenir d'une sculpture, j'ai quand même partagé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a peu d'artistes qui font ça. J'ai partagé ma sculpture qui venait de se casser alors qu'elle était presque sèche. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je la renvoie à son état de terre, c'est-à-dire que je la mouille et je la retraite. Ou est-ce que j'estime que c'est un signe et que je vais en faire quelque chose différemment? Et j'en ai fait quelque chose différemment et la galerie avec qui je travaille m'a dit, mais c'est ta meilleure œuvre. Des fois, voilà, je fais et il se passe quelque chose et je me dis, si ça se passe, c'est que ça ne doit pas être comme ça. Je crois que c'est important d'écouter ce qui se passe et moi, j'écoute les signes. C'est bizarre, mais.
T'écoutes les œuvres.
Oui. J'avais une sculpture qui m'avait donné plein de difficultés parce que là, j'étais partie dans un truc très compliqué. Et je l'ai laissée, alors peut-être mal mise sur le bord de la table, elle est tombée par terre et j'ai dit, bon, ben, elle est morte, et puis je la referai jamais, quoi. Non, mais c'était la fin de tout ce qui m'était arrivé avec cette sculpture qui était trop compliquée. Et comme je dis, elle a choisi son destin.
Ah là
Voilà.
là.
Alors, le seul problème, c'est que c'était à 3 semaines d'une expo, donc j'ai dû en refaire une vite fait, mais voilà quoi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de technique et beaucoup de patience, parce qu'en fait, on part de la terre qui est de l'eau, qui est de la gadoue un peu, hein, ce qu'on dit, de la boue, et en fait, pour arriver à faire tenir ça, c'est qu'il faut de la patience, il faut que ça sèche, il faut que ça sèche. Pas trop vite, pas trop lentement, pour que je puisse continuer à travailler. Voilà, c'est des astuces à chaque étape, en fait.
Est-ce que tu pratiques la patience? Qu'est-ce que tu mets en place ou quand tu arrives dans un moment un peu charnière, tu dis OK, maintenant il va falloir que je sois patiente ou je sens l'impatience qui arrive. Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Est-ce que
Non, mais en fait, alors par contre, quand je fais une sculpture, j'aime pas avoir des contraintes, c'est-à-dire des contraintes de repas. Je suis désolée pour ma famille, mais j'essaie de. C'est pour ça que souvent, j'aime bien créer la nuit, parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de contraintes. Et en fait, je me suis rendu compte que si je prends une sculpture et que. Bon, je ne vais pas l'emmener dans la nuit jusqu'à la fin, mais je vais l'emmener jusqu'à un moment où je pourrai la poser, la mettre sous poche et qu'elle attende les finitions. Mais j'ai besoin que ce processus créatif, jusqu'à la. Pratiquement à mi-étape, soit faite d'un trait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je travaille, la terre sèche et j'ai besoin que ça soit fait d'un trait, parce que si je m'arrête en cours de processus de création où j'ai pas déterminé tous mes vides, où j'ai pas tout terminé, eh bien j'ai beaucoup de mal à y revenir.
ce premier moment, il dure à peu près combien de temps? C'est quoi? C'est une journée, une demi-journée? Parce que j'imagine que tu dois te planifier du coup des horaires de création, parce qu'à ces
Non.
moments-là, tu ne dois pas être dérangé par une activité, un rendez-vous.
Non, 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 je planifie pas du tout. Je me lance, mais dans ces cas-là, je vais aller manger, puis je vais repartir, et puis je vais finir. Il est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est d'être allé où je voulais aller. Après, je peux m'arrêter. Peu importe les finitions, elles se font après. C'est important que je sois, quand je suis connectée, que je dérive pas de ce que j'ai. Du coup, quand j'ai mangé, on peut me parler, j'écoute pas vraiment.
Oui,
Oui,
c'est ça, tu es immergé finalement avec ton œuvre dans la
carrément dans
création.
ma bulle et pas, et surtout pas envie d'en sortir, quoi. Envie de continuer moi, ce que j'ai en tête et de le mener au bout. Et quand j'ai enfin mené au bout et que je sais qu'après ça sera des finitions, et même si c'est de longues heures de finition, j'ai ma voix, j'ai posé ce que j'avais à poser, et maintenant je peux m'autoriser à déconnecter. Et après, par contre, quand je fais la finition, peu importe, parce que là, je fais plus que de la finition, et là, on est dans un cadre technique, et je n'ai plus besoin d'être connecté comme ça.
Mais ça veut quand même dire que si tu veux, on va dire, il est 8 h le matin, tu te dis, allez, je vais commencer quelque chose. Oui, mais si tu as un rendez-vous qui est prévu à 10 h, comme on va dire, notre épisode de podcast, ah ben, tu peux peut-être pas te dire, je vais commencer une œuvre là parce que j'ai 1 heure devant moi. Ce sera certainement impossible.
Ah oui, non, mais ça, d'accord, mais de toute façon, quand je commence, je suis en journée, mon fils est à l'école, je suis toute seule dans mon atelier, y a pas de souci sur ça.
Tu t'es mis des conditions quand même d'organisation,
Oui.
d'environnement,
Oui.
peut-être.
J'ai un atelier qui est contigu à la maison, mais qui est séparé. Donc, quand je sais. Alors, ça, c'est un autre problème parce que du coup. J'ai tendance à aller à l'atelier à n'importe quelle heure et n'importe quand. Et j'ai du mal à fermer entre ma vie perso et ma vie pro. C'est compliqué parce que j'ai souvent. Du coup, je ferme ma clé, je range la clé pour m'éviter d'y aller, quoi.
Est-ce que tu as fait tout à l'heure, alors j'ai envie de revenir un petit peu sur la technique, tu parlais des émaux, je sais que ça aussi c'est un grand travail de recherche de ton côté, en tout cas c'est une part entière et différente de la sculpture même, c'est vraiment, je ne sais pas comment tu nommes cette partie-là du processus, j'aimerais en parler avec toi, mais il y a aussi cette idée-là que émaux et émotion. C'est quand même très très proche. Émo, c'est quand même les mots du corps. Et les mots, voilà, il y a ce lien entre les mots qu'on ne peut pas dire et qu'on exprime et que tu exprimes avec la sculpture, que tu aides les regardeurs à libérer en observant la sculpture, les émotions et les émos. Il y a un beau jeu de mots là-dessus.
Oui, c'est vrai que en fait, c'est un peu comme si j'habillais ces femmes. Parce qu'en fait, je travaille, on ne va pas se mentir, c'est quand même un travail abstrait. On peut reconnaître dans certaines séries des corps, on reconnaît un peu des corps, des corps de femmes qui sont peut-être plus affirmés dans des séries que dans d'autres. Mais pourquoi je passe par l'abstrait déjà pour ne pas parler de nudité. C'est-à-dire que c'est des corps qui expriment et c'est pas des nus. Il y a quelqu'un qui me dit, mais tu fais des nus. Non, je lui dis, je fais pas des nus, je fais des corps et je passe par l'abstrait déjà pour pas parler de ça. Parce qu'on a trop tendance à résumer le corps de la femme à la nudité. Et c'est pour ça que souvent, des fois, on pourrait même penser qu'elles sont habillées parce qu'elles ont un style particulier, parce que c'est pas mon propos. Et du coup, pour moi, les émos sont comme si je les habillais, comme tu dis, d'émotion, parce qu'en fait, la couleur, la matière va accompagner le message que j'ai fait par la forme. Mais par contre, comme le disait, enfin, j'ai une critique d'art qui a fait un texte sur mes œuvres, et c'est vrai que je n'en parlais jamais, mais elle me dit, mais les œuvres sont monochromes parce que tu laisses passer, tu laisses les émotions au premier plan plutôt que. Et la couleur vient accompagner, mais elle n'est pas prioritaire dans l'œuvre. C'est vrai parce que, bon, on m'a demandé de faire en commande des sculptures multicolores, mais ça ne fonctionne pas parce que l'idée, c'est de faire place au vide, de faire place au signifiant, de faire place à l'émotion. Et le fait de mettre, d'apporter plusieurs couleurs va modifier carrément la perception du vide. Et en fait, du coup, on va penser au plein parce qu'il va y avoir deux couleurs différentes. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir. Que ça soit les vides qui passent au premier plan et donc d'avoir une monochromie importante, quasi monochromie, parce qu'il y a quelques qui ont des valeurs en fait, mais on reste dans la même teinte ou des dégradés. Mais c'est important pour moi parce que j'ai déjà testé, en fait, le message du vide et le message de l'émotion passent moins bien avec plusieurs couleurs.
Mais tu sais, ça me fait penser aux vêtements qu'on porte, tout
Ouais.
simplement. Selon comment on s'habille, des fois on ne voit que le vêtement, et des fois, ben, on voit la femme, l'homme, la personne. Et ça, c'est important aussi je trouve, de le savoir, d'en avoir conscience, que selon les vêtements qu'on va porter, ben, certains vont, on va nous voir, et d'autres vont nous cacher parce que c'est le vêtement qui va être vu.
Oui. Ma fille a fait des études de stylisme, une de mes filles, et en fait, quand je dessine, je me dis, c'est presque ça pourrait être presque des croquis où je pourrais créer des vêtements, quoi, parce que des fois, ça prend un peu la forme de référence de vêtements, ou voilà, il peut y avoir des images comme ça qui me viennent.
J'aimerais terminer avec toi en parlant de linogravure. Ça a toujours été fascinant pour moi. J'en ai fait un tout petit peu durant mes études artistiques. J'ai essayé d'en refaire après, mais je trouve que la technique est quand même pas si simple. Il faut de la patience aussi, comme tu l'as très bien dit. Qu'est-ce que ça ajoute à ton travail?
Alors, ce qui m'intéressait surtout, alors au départ, je voulais revenir à la 2D, et en fait, j'ai trouvé ce médium pour être une transition vers un retour à la 2D, parce que quand même, j'ai des problèmes de santé, et donc des fois, faire des sculptures, ça devient compliqué, parce que ça reste quand même un effort qui est très physique chez moi, qui peut engendrer des périodes où je dois me reposer. Donc, je voulais faire autre chose et en plus, j'avais l'opportunité de travailler sur du papier végétal fait à la main, au cadre, à partir de graminées que fait mon amie qui est artiste, qui s'appelle Lola Greenwich, hein, c'est son nom d'artiste, qui est artiste papier. Et j'ai la chance d'avoir cette collaboration avec elle. Et en fait, je travaille sur des papiers végétaux de graminées, d'iris, de lin, etc. Et pour moi, ça faisait sens d'aller travailler ça. Et pour moi, c'était un complément au travail de la terre. C'est de travailler quoi? Le végétal, la terre. C'est voilà, je vis entre forêt et océan. Et tout ça me reconnecte à des choses qui me semblent hyper importantes. Donc, en fait, le projet est venu de l'envie de faire ça. Et en fait aussi parce que la linogravure, c'est vraiment entre guillemets, la petite sœur de la sculpture dans ma technique. Parce que moi, j'ai une technique sur les vitres. Pour les gens qui font de la sculpture en plein, ça, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je travaille de la même façon sur les deux, la terre et la ligne.
Et d'ailleurs, je pense, si je me souviens bien, la linogravure, il y a deux façons de faire, où on dessine avec notre outil l'œuvre et on imprime en négatif finalement, ou bien on vient sculpter tous les vides, donc tous les extérieurs, et on imprime en positif. C'est aussi un choix, j'imagine, en fonction. Ça doit révéler d'autres choses.
Oui, d'ailleurs, je fais une exposition au Clos des Roses Art Center à Fréjus, et où il va y avoir à peu près 15 œuvres entre sculpture et linogravure. Et en fait, j'ai traité le même sujet des deux façons, pour montrer que ça donne pas le même, ça donne pas la même émotion, ça donne pas la même chose. Et justement, on va faire dialoguer ces œuvres pour voir. J'ai hâte d'avoir les retours, savoir sur la même chose, quelle est la différence de perception. Alors, du coup, il y a une différence de couleur, puisque en fait, la forme est en couleur et de l'autre côté, c'est le tour qui est en couleur. Et pour voir, et du coup, les vides sont en papier. Voilà, c'est en fait, pour moi, c'est complètement différent. Et du coup, j'ai pris un parti, c'est qu'après, je n'ai plus acté qu'une seule partie. C'est-à-dire, je préfère travailler d'enlever juste, c'est-à-dire que les vides sont colorés. Moi, ce qui
Oui,
m'intéresse,
tu imprimes en
c'est
négatif. Oui.
voilà.
Oui. Ouais, mais je pense que c'est important à un moment donné aussi que l'artiste ait son parti pris et choisisse. Hein. Donc.
Je trouvais intéressant de présenter les deux œuvres parce que l'an dernier, j'en ai fait d'autres et je n'ai pas présenté les deux œuvres. Et je trouvais intéressant de présenter les deux œuvres et de voir les réactions lors du vernissage. Je serai attentive à voir les réactions entre les deux. Je trouve ça. Des fois, j'aime beaucoup avoir les retours des personnes parce que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de retours et j'échange beaucoup avec les personnes. Parce que souvent, je me rappelle d'une œuvre et il me dit, mais il y a deux corps. Ben, je lui dis, oui, ok. Mais en fait, il y a des gens, des fois, ils voient deux corps. Alors moi, j'en ai fait un. Mais c'est intéressant comme. Et du coup, je vais réfléchir où ils voient les deux corps. Tu vois, voilà, c'est C'est important. Là, j'ai fait une œuvre, celle qui est faite en bronze, là, dont j'ai partagé les vidéos. Et en fait, c'est l'œuvre que j'ai fait en premier en linogravure, en deuxième en céramique, et du cerf à la céramique, on a fait en bronze. Et en fait, cette œuvre, les gens y voient un squelette, ils voient un corset, ou ils voient une armure. Et en fait, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Moi, je parlais des plis et replis quand on est bien en chair, du corps. Et en fait, quasiment personne le voit comme ça, parce qu'en fait, c'est pas la, entre guillemets, la vision de la beauté de la femme qu'ils ont. Mais moi, et en plus, je l'ai appelée féminité musicale, parce que j'estime que ces plis, ça crée une musicalité du corps, et ça donne, voilà, un peu comme une lyre. Donc, du coup, voilà. Et c'est vachement intéressant d'avoir les retours des gens qui me suivent et qui connaissent quand même bien mon travail. Alors, souvent, quand je présente une œuvre, je commence par laisser le truc à l'émotion, je commence par la faire découvrir petit à petit. Et ce n'est que lors de la dernière où je vais aller dire quelle était mon intention. Mais entre-temps, ils m'ont tous dit ce qu'ils y voyaient, quelles étaient les émotions qu'ils ressentaient. Et je trouve important de laisser ce processus de découverte de l'œuvre. Je pense que c'est important de commencer par là.
C'est là aussi qu'on voit la puissance d'une œuvre finalement qui nous dépasse.
Ah oui, tout à fait. Les gens, c'est normal. Chacun interprète avec ses émotions, avec son vécu, sa connaissance de l'art, ses référentiels d'image, ses référentiels de corps. Aussi, c'est sa confiance, quand je parle des femmes, leur confiance en elles, du corps. Alors après, il y en a certaines qui me disent, oui, mais tu auras beau faire des sculptures, j'aurai pas plus confiance en moi. D'autres me disent, ça me fait du bien, je me reconnais dans les œuvres, je m'y projette, voilà.
Qu'est-ce que tu nous prépares pour le cercle de l'art?
Alors pour le cercle de l'art, en fait, à partir du 1er avril, on présente une quinzaine, 15 à 20 œuvres nouvelles, inédites. C'est un règlement sur 12 mois. Et en contrepartie, ça permet d'avoir un revenu régulier pour les artistes. Nous, on fait des contreparties, on fait des attentions pour qu'il y ait un échange permanent avec le collectionneur tout au long de l'année. Pendant un an, on va pouvoir se consacrer à la recherche, se consacrer à des projets plus importants et donc être plus à fond dans nos recherches artistiques. Et donc l'an dernier, il y a une dizaine de collectionneurs qui m'ont suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui m'ont fait confiance, ce sont des femmes. Et le fait de mettre des œuvres comme ça en accessibilité sur 12 mois fait qu'il y a des personnes qui n'avaient pas les moyens jusque-là de s'offrir des œuvres, mais qui, par petite mensualité, ça ouvre l'art à d'autres personnes et ça démocratise l'art. Ça permet à des gens de rentrer dans des processus d'achat d'œuvres d'art qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Je trouve ça très important. Et en même temps, je prépare mon départ au Japon parce que j'ai été sélectionnée pour partir en résidence artistique à Shigaraki au Japon. Et c'est un des projets que j'ai pu mener justement grâce aux revenus mensuels que j'avais sur le cercle de l'art. Et vraiment, j'ai travaillé pendant un an mon dossier et j'étais ravie d'être sélectionnée. Et donc, je vais créer là-bas pendant 2 mois complets. Je vais travailler au Japon. Pour pouvoir aller au Japon, je vais faire une campagne de financement sur Ulule. Et je me suis lancée dans un nouveau projet. Tu vois, tu en as la primeur. C'est que je vais créer un carnet entre art et inspiration au Japon, qui sera à la base de mon financement pour financer mon voyage là-bas, parce que tout est à ma charge. Et donc, j'ai trouvé un éditeur et on travaille déjà sur un livre carnet, un peu carnet d'art, qui sort avec des textes, des photos et des croquis, qui sortira à mon retour du Japon.
Ce sont vraiment des beaux projets et inspirants, je trouve aussi pour un artiste de se réinventer, d'aller aussi connecter à d'autres médiums, d'autres façons de se connecter aux collectionneurs.
Oui, alors bah, cette année, alors l'an dernier, en même temps que le Cercle de l'Art, j'ai fait un bootcamp d'écriture avec Valentin Decker. Et en fait, c'est parce que je pense aussi, je m'en manquais beaucoup de confiance en moi. Et je pense que enfin, le travail qu'on a fait m'a permis de me libérer et de m'autoriser à écrire des choses. Que voilà, que ça, plus le travail sur le Cercle de l'Art. Et le travail avec l'éditeur, il est venu de. Ben, en fait, je fais partie d'une communauté de créateurs qui s'appelle l'ABC de Kilian Tallinn. Et en fait, c'est au sein de ce collectif ou de cette communauté plutôt, où en fait, j'ai trouvé mon éditeur qui m'a. Voyant ce que je voulais faire au Japon, etc. Il m'a dit, mais voilà, il faut que tu fasses ça. Il s'appelle Michael Loubatière de Néolibrum. Et il m'a dit, mais c'est Julie, tu es tout à fait capable de faire. Parce qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur, quoi qu'on fasse, même qu'on soit artiste, etc. À un moment donné, on se dit, je suis pas capable de le faire. Et en fait, il m'a dit, mais tu as bien fait un carnet que tu présentes pour ton exposition. Alors, ça ne sera pas le même style de carnet parce que là, je vais faire partager mon expérience de 2 mois au Japon, ça, voilà, par les croquis, par toute la création que je vais faire, mais par toutes les inspirations que je vais avoir. Je vais faire des croquis aussi, des petits dessins du Japon, je vais faire des photos, je vais faire. Voilà, ce sera entre art et voyage. Et en fait, je veux dire, le fait de faire partie de cette communauté me permet de me lancer dans d'autres projets en étant accompagnée et en étant plus en confiance. Du coup, ben, j'arrive à, entre guillemets, on dit toujours, à avoir de l'audace et à aller plus loin. Et puis aussi, j'ai été accompagnée par Adeline Kubert en accompagnement cette année. Ben, grâce à elle, j'ai fait un concours avec une galerie de sculptures. Je ne serais jamais allée le faire toute seule. Et en fait, bon, je suis arrivée dans les 10 finalistes. Et c'est un concours de la Fondation de France, le prix Carrefour. Et je ne l'aurais jamais fait si quelqu'un ne m'avait pas accompagnée. Parce que on a toujours chacun ce problème de confiance en disant bah, soit ce n'est pas pour moi, soit je n'y arriverai pas. Et je pense que tout ce que je fais en dehors de l'art, quand je fais partie de différentes communautés ou de collectifs, c'est ça qui me fait avancer et pourtant, et c'est important de le souligner, même si je fais des formations, même si je travaille avec des entrepreneurs et que je me sens artiste entrepreneur, quand je suis à l'atelier, je ne suis pas entrepreneur du tout. Je suis vraiment artiste connecté à mes émotions et des fois. La galerie me dit, mais des fois, tu devrais être aussi un peu entrepreneur et réfléchir à comment tu vas le vendre. Parce que on revient à mon histoire de tableau céramique, et il m'a dit, mais t'es parti porté par tes trucs et tout, mais t'as réfléchi après comment t'allais pouvoir le présenter, et une fois qu'il est cuit, c'est trop tard pour modifier. Voilà, en fait, je ne réfléchis pas à la conception et à la présentation de l'œuvre. Je me connecte à ce que j'ai envie de dire et je me suis pas. Du coup, des fois, il faut que je trouve des solutions pas possibles pour arriver à présenter l'œuvre parce que ça n'a jamais été fait. Et là, pour le coup, ce que j'ai fait, ça n'a jamais été fait. Et la galerie m'a dit, mais il faut que tu inventes un nom. C'est pas une sculpture, c'est pas un bas-relief, donc c'est quoi? Et en fait, j'avoue que je me laisse souvent porter et je fais des choses que les autres font pas parce que je me connecte qu'à moi. Et donc, ben, c'est vrai que malgré toutes ces communautés et tout ce travail que je fais autour, je reste vraiment. L'art reste l'art et l'entrepreneuriat reste l'entrepreneuriat. Et tout ce qui est entrepreneuriat se fait dans la maison et tout ce qui est création là-bas. Par contre, tout ce qui est croquis, je le fais ni dans l'un ni dans l'autre parce que j'ai besoin d'être complètement déconnecté de mes créations Parce que j'ai remarqué souvent que d'avoir les œuvres dans l'atelier influence mes croquis suivants.
Oui, pour faire table rase, finalement, tu vas ailleurs.
Oui, et puis du coup, voilà, je suis ni dans l'art ni dans l'art, je suis juste connectée avec moi. Et souvent, ça peut être, je peux avoir des idées sous la douche, je peux avoir des idées quand je suis en voiture ou quand c'est pas moi qui conduis et que j'en profite pour dessiner. Quand je pars en vacances ou quand je vais à la plage, voilà, ou quand je vais marcher dans la forêt et que je m'inspire en prenant des photos. Et c'est d'ailleurs le prochain sujet du cercle de l'art, c'est que j'ai exploré le thème de la résilience par le végétal, en faisant donc, comme on en a parlé au début, un parallèle entre la résilience humaine et la résilience végétale. Et je suis passée au travers des photos que je fais depuis des années des photos de fougères. La fougère, c'est le symbole de la résilience. Les Maoris utilisent beaucoup ce symbole qu'ils appellent le kōru. Et en fait, c'est la forme en spirale qui est la forme résiliente, un peu comme aussi le coquillage millénaire. Et en plus, le lien entre l'océan et la forêt, c'est que j'ai lu des études. Où, en fait, mais je l'ai su après, hein, je ne le savais pas avant quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, que la fougère a migré de l'océan dans la forêt. Donc, en fait, c'est ce thème que j'explore dans mes nouvelles œuvres que je vais présenter à partir d'avril.
Et comme ce podcast sortira en avril, au moment où les écouteurs écoutent en ce moment, ben voilà, ils n'ont plus qu'à venir te contacter pour avoir ton portfolio.
Oui, portfolio, vous m'envoyez par message votre mail et puis je vous l'envoie, il n'y a pas de souci.
Super. On termine avec l'état de flow. Tu en as parlé tout à l'heure. Cet état de flow que tu trouves dans ton atelier quand tu es seul avec ton œuvre en pleine création. Mais de ce que je crois comprendre aussi, tu as cet état de flow qui est possible aussi quand tu es entouré d'autres personnes créatives, communautés. Je sens aussi peut-être les galeristes qui t'accompagnent, qui te permettent d'aller plus loin, entouré en tout cas.
C'est pas en rapport avec l'état de flow, parce que quand j'ai besoin des conseils de Laurent Janière de la galerie Art Trafic, en fait, on en parle, mais on en parle une fois que j'ai fait l'œuvre, on n'en parle pas avant. Par contre, j'échange beaucoup avec des artistes du cercle de l'art, et notamment ma binôme historique avec Cécile Rousseau, là, qui en fait, toutes les deux. On échange en permanence sur nos démarches, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut exprimer. Et c'est d'une grande aide. Mais l'état de flow, je l'ai vraiment quand je suis toute seule. Le reste, c'est des conseils extérieurs. La seule chose, c'est que Cécile est venue travailler une semaine avec moi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, c'est de travailler avec un autre artiste. Et je pense qu'en résidence, ça va m'apporter beaucoup de choses parce que je vais être avec des artistes et des artisans d'art qui viennent de tous les pays, qui ont des influences différentes. Certes, j'ai préparé un dossier en parlant de ce que j'allais créer. J'ai même des croquis. Mais il est important que je me laisse porter par le pays, que je me laisse porter par les influences et que voilà, je n'y vais pas pour créer exactement ce que je fais ici. C'est voilà. J'ai prévu de faire des recherches ben, sur les terres qui sont là-bas, sur des choses un peu particulières et de me laisser porter. Mais le sujet que je vais porter là-bas, c'est toujours sur la résilience et ça sera la résilience, elle est vague.
Là, je m'interroge à l'instant. Est-ce que tu vas créer aussi des œuvres, c'est-à-dire tu vas devoir les ramener après, si ce n'est
Ah
pas que
oui. Après,
c'est de
ce
la
que je ramène, il y a un budget.
logistique.
Il y a un budget pour amener. Le budget est quand même de 2000 euros pour amener les œuvres. Donc, voilà. Parce que j'ai prévu de faire des plus grandes œuvres là-bas. J'ai prévu. Et j'ai prévu aussi de laisser des œuvres là-bas. En fait, tout dire, mon fils vit au Japon, est marié avec sa femme japonaise, ils ont de petits enfants qui parlent japonais. Donc j'apprends le japonais, certes j'avais commencé à apprendre le japonais pour eux, mais j'ai intensifié pour la résidence parce que j'ai envie d'animer des ateliers et je voudrais au moins pouvoir dire quelques mots, même si c'est pas... Et je pense que déjà, j'ai fait déjà deux voyages au Japon, donc c'est le troisième, mais c'est le premier où je vais travailler et vraiment vivre comme des Japonais. Enfin, pas vraiment, parce qu'on est quand même dans une résidence artistique, mais c'est important, c'est quelque chose d'important pour moi. Je vais laisser une œuvre à la résidence artistique, qui sera dans le parc de sculpture, qui sera un lien entre moi et mes petits-enfants. Ils pourront dire, il y a une œuvre de Mamie Julie, parce qu'ils m'appellent comme ça, de Mamie Julie au Japon. Et donc, ils viendront voir la résidence. Et j'ai besoin de rentrer dans leur culture. J'ai besoin, parce que c'est très compliqué pour moi, parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et j'ai cette envie de rentrer dans leur culture, parce que c'est important, je pense.
Tes œuvres, tu parles de le laisser dans un parc, se destinent aussi à l'extérieur?
Oui, certaines, oui. Celles que je vais créer là-bas, je vais en créer une pour l'extérieur. Mais c'est un parc qui est dédié à ça. Donc, voilà. Des petites œuvres comme je fais actuellement, oui, on peut les mettre en extérieur, mais un coup de vent, je ne conseille pas, honnêtement. Mais là, je vais essayer de créer une grande œuvre qui va rester, qui sera suffisamment lourde pour rester, qui sera cimentée, qui pourra rester là-bas, qui sera une preuve de mon passage là-bas. Mais en fait, cette résidence. Je l'avais même en tête avant que j'aie mes petits-enfants. Enfin, j'ai une artiste qui est allée et que j'avais vue là-bas. Et quand j'avais vu les créations qu'elle avait faites, j'avais vu tout le cheminement qu'elle avait fait là-bas. Et une fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais vu que ton fils est au Japon, je pense que ça t'apporterait beaucoup d'aller là-bas. Et surtout au point de vue création de sculptures céramiques, c'est le meilleur endroit à l'international pour aller, quoi.
Ça doit être assez enivrant à s'imaginer tout ce qu'on va pouvoir être nourri dans son travail artistique et personnel, évidemment.
Oui, en même temps, c'est à la fois enivrant, mais enfin, j'ai quand même un petit peu peur, hein, on va pas se mentir, parce que bon, voilà, 2 mois, ça passe finalement vite. Et la peur, c'est en fait de partir dans les recherches dans tous les sens et de partir. Donc, c'est bien d'avoir une ligne directrice et de savoir exactement ce qu'on va y faire, même si je vais me laisser porter et que je vais me laisser porter par les émotions qui vont arriver là-bas, par les inspirations, par certaines philosophies, notamment on dit le wabi-sabi, parce qu'en fait, ce que je fais, comment dire, la chose qui est bizarre dans ma démarche artistique, c'est que je parle de l'imperfection de la beauté imparfaite par rapport à des œuvres qui sont assez perfectionnistes. Et je parle de l'imperfection et par contre, techniquement, je suis sans cesse sur la perfection. Et un de mes objectifs au Japon, c'est de me libérer un peu de ça et eux, ils ont une philosophie donc qui s'appelle Wabi-Sabi et qui est de la beauté de l'imperfection dans la réalisation. C'est-à-dire accepter le verdict du four quand les émaux font pas tout à fait ce que vous voulez, accepter que l'œuvre ne soit pas une perfection technique, mais soit plus dans l'expression. Voilà, mais bon, il y a du chemin à faire.
En tout cas, c'est une belle promesse. Merci de nous faire rêver et on a hâte de te suivre. Du coup, on peut te suivre sur Instagram, sur LinkedIn pour voir tout ça.
Et sur Facebook.
Et sur Facebook, Julie Espio, .fr pour ton site internet, c'est ça, ou .com?
Oui. Non, juliespio.fr sur mon
Voilà.
internet et c'est Julie Espio Sculpture sur Instagram et non, c'est julie.espio sur Instagram, c'est Julie Espio Sculpture sur Facebook et Julie Espio tout court sur LinkedIn. Je m'active partout en fait.
Oui. Merci pour ce riche échange. J'avais tellement hâte de pouvoir parler avec toi parce que vraiment tes œuvres m'inspirent énormément. Et voilà, les vides m'inspirent. Donc ce que tu crées, ton processus que tu partages beaucoup probablement aussi, que ça aide à se connecter à l'artiste quand on n'a pas encore vu les œuvres.
Mais je trouve que c'est très très important d'expliquer, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui adoptent mes œuvres, parce que je parle d'adoption, parce que j'aime pas trop parler différemment, parce que je leur donne un certificat Quand je donne le croquis original, c'est comme un certificat de naissance. J'ai l'impression pratiquement que je transmets une œuvre, mais c'est une adoption comme si c'était un peu une partie de moi-même. Et en fait, beaucoup de personnes qui ont adopté de mes œuvres ne connaissaient ni la sculpture céramique, ni le bronze, ni la linogravure. Et en fait, je pense qu'il est important déjà d'expliquer la technique pour comprendre quel est le travail derrière, et aussi d'expliquer comment je me connecte, comment je crée, qu'est-ce que je mets dedans, etc. Et plutôt que de donner à voir juste des œuvres sans explication, et je trouve que c'est très important sur les réseaux de partager ça.
Probablement aussi que l'artiste est là pour ça. On fait, d'une certaine manière, on fait voyager le regardeur, l'observateur par l'œuvre, mais aussi par ce qu'on dit, ce qu'on raconte autour de ça,
C'est un peu de la
l'univers.
médiation entre moi et les personnes qui me suivent sur les réseaux, et je trouve que ce processus est vraiment très important.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi surtout. C'était très agréable. Voilà.
Merci, à très bientôt, Julie.
À très bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée et la newsletter www.etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.